Bookmakers.
Les écrivains au travail par Richard Guettet
sur Arte Radio.
Il a caressé de petits serpents très doux. Il parlait toujours. Le mégot brûlait son doigt. Il a pris sa dernière bouffée. Le premier soleil l'a frappé. Il a chancelé, s'est retenu à des robes fauves, des poignées de menthe. Il s'est souvenu de chair de femme, de regards d'enfant, le délire des innocents. Tout cela parlait dans le chant des oiseaux. Il est tombé à genoux dans la bouleversante signifiance du verbe universel. Il a relevé la tête, a remercié quelqu'un, tout a pris sens. Il est retombé mort. Midi est loin. Hiéroglyphe accompli et forme consommée, sa vie irrévocable le parent. L'abbé bandit se tait et dort dans l'immense chasuble verte des forêts où les grands cerfs fictifs passent, lents. Une croix entre leurs 10 corps.
C'est son premier soleil. Un livre vénéré, 100 fois commenté, étudié à l'université, qui fête cette rentrée ses 40 étés. Un premier roman devenu classique, à la croisée de Faulkner et de Flaubert, publié par Gallimard en 1984 après 2 ans de querelles internes, où un abbé meurt de ses excès, où des paysans s'échinent sans gloire près d'un rameau décharné de glycine, en rêvant parfois d'Afrique ou d'Amérique. Vie minuscule, de Pierre Michon, c'est l'entrée en littérature du fils de l'institutrice d'un village rural. Le salut tant espéré d'un lettré tapageur, jadis porté sur la bouteille, qui de son propre aveu se traîna jusqu'à 40 ans à ne rien foutre de ses 10 doigts. Michon se retroussa pourtant les manches pour accoucher de 8 petites biographies sur de merveilleux modestes, où se dessine aussi, en filigrane, l'autofiction d'un écrivain qui n'écrit pas. Un coup d'essai, considéré dès sa sortie comme un coup de maître par la critique, mais longtemps boudé par le public, sans doute refroidi par ses longues phrases pleines de points-virgules et d'imparfaits du subjonctif, qui souvent touchent au sublime. Pour ce deuxième épisode, Pierre Michon retourne dans les coulisses de son chef-d'œuvre inaugural, vendu, tout format confondu, à 185 000 exemplaires. Comme le héros écrivain du film La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. S'est-il piégé lui-même en démarrant trop fort? S'est-il mis, comme il le confessa avec humour, dans une situation pourrie parce que la barre est trop haute vis-à-vis de son lectorat? Jusqu'à quel point est-il encore hanté par cette phrase de Balzac tirée d'Illusions perdues que Pierre Michon lui-même plaça en ouverture d'un de ses livres? Tu pourras être un grand écrivain, mais tu ne seras jamais qu'un petit farceur. Pour le savoir, soulevons ensemble, à son chevet, l'opercule de cet opuscule majuscule. Pierre Michon, permettez-moi de résumer, à partir de multiples interviews que vous avez données ces 40 dernières années, la situation qui était la vôtre entre la fin de vos études et la sortie de votre premier livre, l'année de vos 39 ans. J'allais mal, je buvais trop, je me clochardisais, Je vivais de bitures, de lectures. Je cassais des tables, des vitres et des voitures. Je me demandais le lendemain, en lisant les faits divers dans le journal, si ce n'était pas moi qui avais fait le coup. Je ne touchais pas le chômage. Ma mère m'a beaucoup aidé, et quelques filles aussi. Je vivais de charité publique, au bluff, avec une très mauvaise conscience, un sentiment de chute et de perdition absolue. Je pensais que je tuerais quelqu'un ou que je mettrais le feu à la maison familiale pour que quelque chose atteste de mon existence. Vous étiez si violent que ça ?
Ah oui, j'étais très violent. Très, très violent. Avec les choses. Par exemple, les portes dans une maison m'exaspéraient quand j'étais bourré à fond. Puis en plus, je prenais plein de médicaments et des fois, j'achetais des amphés quand j'avais assez de fric.
Les amphétamines ?
Les amphétamines. Maxiton. Le Maxiton. Quand c'était encore en vente libre dans les pharmacies, vous n'avez pas connu ça. Sartre en prenait des poignées entières de capsules. Et on lui disait, t'en manges trop. Il disait, je m'en fous, j'aime mieux vivre 10 ans de moins et avoir écrit la critique de la raison dialectique. Ah, mais ça rendait intelligent, on ne pouvait pas imaginer. Rimbaud le fils a été écrit entièrement sous amphé, en très peu de temps sous amphétamine. C'est moins euphorisant que la cocaïne, mais ça rend cérébral comme la cocaïne. Les neurones, les neurotransmetteurs se mettent vraiment à marcher. J'ai lu tout Freud, tout ce qui était en poche, sous amphé, et j'ai embrassé tout Freud. C'était un produit miraculeux, le Maxiton. C'était de l'amphé pur, quoi.
Je reviens à avant la sortie des Vies minuscules. Pour vous sortir d'un tel marécage existentiel, vous allez recevoir de l'aide. L'aide d'un père spirituel. L'écrivain américain William Faulkner est pour vous, vous l'avez écrit, le père du texte. Du fin fond du Mississippi, ce nanti à l'alcoolisme destroy, petit-fils d'un célèbre colonel, neveu d'une femme lettrée, à surrendre universel son extrême particularité, recevant, grâce à cela, le Nobel de littérature en 1949. Vous le découvrez à 30 ans, en lisant par hasard une édition de poche de son roman « Absalon, Absalon ». Vous découvrez alors que vous êtes à peu près de la même constellation émotive. Vous avez écrit « dans son ombre et par sa main ». Et vous avez pour lui une gratitude sans bornes, une admiration et une affection jamais remplacées. Faulkner vous a donné, je cite encore, « la permission d'entrer dans la langue à coups de hache, la clé à partir de quoi le texte se déploie sans effort ». Quelle est la première chose qui vous a ébloui chez lui sur le plan strictement littéraire ?
Le rythme. Le rythme de la phrase. C'est comme un torrent de larmes. Faulkner, c'est la voix du deuil qui parle. D'un bout à l'autre, le deuil, la perte, le manque. C'était un type, pas du tout raciste, mais du Sud. Il se sentait coupable, lui-même, par sa généalogie et par le fait qu'il était resté dans le Sud, coupable du grand péché du Sud qui était l'esclavage. Il écrivait avec ça. Absalon, Absalon finit par « Non, je ne déteste pas le Sud. Je ne le déteste pas. » Avec des points d'exclamation. Mais c'est évidemment... il l'aime et il le déteste.
Voici comment Faulkner définit la langue dans « Absalon, Absalon » publié en 1936. La traduction est de René Noël Rimbaud, R-A-I-M-B-A-U-L-T. Ce fil ténu et fragile, au moyen duquel on peut joindre de temps à autre, pendant un instant, les petits coins superficiels, les bords de vies humaines secrètes et solitaires, avant qu'ils ne se renfoncent dans les ténèbres, où l'esprit a crié pour la première fois, criera pour la dernière, et ne sera pas plus entendu.
C'est le plus grand romancier que la Terre ait produit. Mais, comment dire, je ne suis absolument pas un disciple de Faulkner. Je n'écris absolument pas comme Faulkner. Je m'identifie idéalement à Faulkner. Quoi que vous savez, il a eu une vie de Patachon. Oh là là. Simplement, je pense qu'il a poussé le roman à ses dernières extrémités. Bien plus que Proust, que Joyce, que Kafka, c'est lui qui a clos le roman. Regardez maintenant, les grands romanciers, c'est par exemple les latino-américains, ils font du Sue Faulkner. Enfin, en France aussi, il y a du Sue Faulkner. Il y a eu Claude Simon, mais qui était quand même un bon écrivain. Mais c'était dans l'ombre de Faulkner.
Je vais lire l'extrait d'Absalon Absalon que vous avez publié dans votre texte « Trois auteurs ».
Ils sont au paradis, là, enfin, ou en enfer. C'est une des plus belles scènes de l'histoire de la littérature.
Et le démon s'arrêterait de parler. Et Jones arrêterait son gros rire. Et ils se regarderaient mutuellement, indécis, solennels, tendus. Et le démon dirait...
Qu'est-ce que c'était,
Il est arrivé quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Et Jones, regardant le démon, hésitant lui aussi, grave lui aussi, répondrait... Chez point, colonel. De quoi que c'est? Chacun obéissant à l'autre. Puis l'ombre se dissiperait, le vent disparaîtrait, et Jones finirait par dire impassible, pas même triomphant.
Ils nous ont peut-être tués, mais ils nous ont pas encore battus. Pas vrai, colonel?
Faulkner vous a beaucoup dopé. Vous lui devez, je cite, « la lamentation perpétuelle et l'élégie perpétuelle de vos vies minuscules ».
De mes livres, c'est le plus endeuillé. Les vies minuscules ont certainement été influencées par Faulkner, oui. Parce que je le lisais d'un bout à l'autre à ce moment-là.
Vous démarrez l'écriture de « Vies minuscules » en 1980. Vous avez 35 ans. Vous consacrez 95 carnets de notes à la rédaction de ces vies d'inconnus croisé pendant votre enfance ou votre jeunesse, à cette biographie fantasmatique, en choisissant des figures d'humbles qui ont une vocation au légendaire. Ce sera, par exemple, un curé ivrogne, des paysans en faillite, un meunier illettré. Vous vous mettez à danser sur vos deuils, votre mélancolie devient une exaltation, vous allez glorifier et brûler vos racines via cette drôle d'autobiographie sans contrat de vérité pour laquelle vous avez un peu triché.
Énormément triché.
Les parents de ma grand-mère avaient demandé que l'assistance publique leur confiât un orphelin pour les aider dans les travaux de la ferme. On leur envoya André Dufourneau. Je me plais à croire qu'il arriva un soir d'octobre ou de décembre, trempé de pluie ou les oreilles rougies dans le gel vif. Pour la première fois, ses pieds frappèrent ce chemin que plus jamais ils ne frapperont. Il regarda l'arbre, l'étable, la façon dont l'horizon d'ici découpait le ciel, la porte. Il regarda les visages nouveaux sous la lampe, surpris ou ému, souriant ou indifférent. Il eut une pensée que nous ne connaîtrons pas. Il s'assit et mangea la soupe. Il resta 10 ans. Ma grand-mère, qui s'est mariée en 1910, était encore fille. Elle s'attacha à l'enfant, qu'elle entoura assurément de cette fine gentillesse que je lui ai connue, et dont elle tempéra la bonhomie brutale des hommes qui l'accompagnaient au champ. Il ne connaissait ni ne connut jamais l'école. Elle lui apprit à lire, à écrire. J'imagine un soir d'hiver, une paysanne jeunette en robe noire fait grincer la porte du buffet, en sort un petit cahier perché tout en haut, le cahier d'André, s'assied près de l'enfant qui s'est lavé les mains. Parmi les palabres patoises, une voix s'anoblit, se pose un ton plus haut, s'efforce en des sonorités plus riches d'épouser la langue aux plus riches mots. L'enfant écoute, répète craintivement d'abord, puis avec complaisance. Il ne sait pas encore qu'à ceux de sa classe ou de son espèce, nés plus près de la terre et plus promptes à y basculer de rechef, la belle langue ne donne pas la grandeur. mais la nostalgie et le désir de la grandeur.
Pierre Michon, vie minuscule.
Le déclic de l'écriture de vie minuscule vous apparaît au hameau d'Écart, dans le jardin de votre enfance, en friche, où poussent encore les fleurs de votre grand-père. Vous allez écrire les petites vies de vos morts. La première que vous rédigez, vie d'André Dufourneau, à propos d'un orphelin élevé par votre famille, vous procure une délivrance, notamment grâce à cette forme, brève et tendue, si simple, que vous trouvez à ce moment-là, des histoires de 20 à 40 pages, pas davantage, comme des nouvelles, capables de tenir une même émotion.
Il est sûr que j'ai trouvé, là, dans la vie d'André Dufourneau, d'un seul coup, par hasard, ma forme. C'est pas une nouvelle, c'est pas un morceau de roman, c'est pas un poème.
Et pourquoi c'est pas une nouvelle ?
D'abord parce qu'une nouvelle se suffit à elle-même. Alors que les miennes s'emboîtent les unes dans les autres.
Ici, pour vous, l'adjectif minuscule signifie « toute personne dont le destin n'est pas à la hauteur du projet ». Qu'est-ce que ça veut dire « à la hauteur du projet » ?
À la hauteur de ce qu'il projetait de vivre. Nous sommes tous des minuscules. Rares sont ceux qui peuvent dire à la fin du parcours, ça va, j'ai fait ce qu'il fallait.
Avez-vous été vous-même à la hauteur du projet ?
Je ne suis pas encore mort.
Non. Est-ce que vous êtes à la hauteur du projet, là, jusqu'ici ?
Non. Sur le nombre d'œuvres, je ne suis pas à la hauteur du projet.
Ce qui est mystérieux chez vous, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de textes non publiés.
Oui, mais ce n'est pas des textes achevés.
Il n'y a aucun texte fini, non publié ?
Quelques-uns, mais ils ne sont pas parfaits.
C'est quoi ces textes ?
C'est des textes de Pierre Michon, sur la bataille d'Azincourt, les morceaux de la Grande Beugne qui ne sont pas parus, la suite des 11. Ça s'appelle le maître des 11. Oh putain, je n'aurais pas dire tout ça.
Pour rappel, les 11 se déroulent en 1794, quand on tuait en masse les contre-révolutionnaires. Le roman raconte la conception d'un tableau, fictif, de 11 membres du comité de salut public rassemblés autour de Robespierre, qui furent les instigateurs du règne de la terreur. Vous l'avez commencé en 1992, publié chez Verdier en 2009. Le roman ne compte que 132 pages, et c'est avec ce livre que vous vous êtes autorisé à vous dire écrivain. Vous n'avez pas aussi écrit un texte sur Antonin Artaud, ce suicidé de la société, l'auteur vociférant d'Elio Gabal, inventeur d'un théâtre de la cruauté en 1938, sur lequel vous rêviez déjà, étudiant, d'écrire un mémoire de maîtrise ?
Combien de fois j'ai commencé un récit que j'ai jamais fini sur son voyage au Mexique, mais que je ferai un jour. Enfin, étant donné que Dieu qui m'est apparu. Ouais, il m'a téléphoné. Dit Michon, c'est le père. Yahvé, si tu préfères, Elohim. Ah, Elohim, bon, je suis flatté. Hein.
Je te donne encore 20 ou 25 ans.
Hop, il raccroche. C'est qu'il y a du boulot, hein. Mais je me méfie d'Elohim, des fois, il est salaud. Il est salaud.
Oh, dites donc, oh.
Diriez-vous que l'écriture de Vie minuscule était plutôt fluide, heureuse, lumineuse, ou plutôt laborieuse, sombre et douloureuse ?
Ah, il y a des deux. J'en fais un peu trop dans les vies minuscules. Prétention. J'arrive. Allez, me voilà. Je vais vous montrer comment on fait. Il y a quelque chose d'un peu accablant. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je suis d'accord avec vous. Je trouve que vous allez dans le mélodrame. Mais, je trouve ça sincère, poignant, donc ça ne me dérange pas. J'accepte ce lyrisme.
C'est bien.
Vous écrivez ces vies minuscules pendant un an et demi. Le texte est fini en 1982. Mais certaines vies ne sont pas retenues au montage. C'est le cas de la vie d'Élie Mougnot. Puis-je vous demander de nous en lire un bref passage qui figure aussi dans les cahiers de Lerne ?
J'entends ce nom dans mon enfance. C'est le nom chatoyant d'une réputation. Il passe dans l'air avec beaucoup d'éclat et pourtant, il est plein de sueur et de peine. À l'entendre, on voit une fille et un oiseau et pourtant, il est toujours assorti à des actes d'une virilité exagérée. On le prononce, mon grand-père, ses acolytes, avec un mélange d'étonnement, d'admiration goguenarde et de vague pitié. C'est le nom de quelqu'un qui s'épuise et n'a pas les moyens de s'épuiser. Un gringalet qui prétend aux travaux d'Hercule et dont année sur année on guette l'effondrement qui miraculeusement ne vient pas et qu'on remet à l'année prochaine. On parle d'une grande silhouette efflanquée qui de l'aube au soir arpente le mont Jouet et non pas pour le plaisir, mais pour la peine. Non pas le nez au vent, mais courbé. On parle de charretées rentrées aux lanternes à 3h du matin, de bœufs effondrés sous des faits nocturnes, de bêtes exotiques achetées à grands frais, poules de Bresse et porcs de Craon, espèces sybarites réduites à se faire les dents sur les trois poignées de blé noir du lopin d'Eli Mugnot.
Pourquoi ne pas inclure cette vie au livre ?
Elle ne me semblait pas à la hauteur des autres. Mais j'aurais voulu la pousser plus loin.
Du temps de l'écriture de Vie minuscule à Orléans, au début des années 80, vous alterniez ce travail avec des parties de flipper au bar d'en bas.
Un PMU, très populaire, très remuant. Je ne me saoulais pas en écrivant ce truc. Mais je l'ai tenté pour un demi. Et je jouais au flipper comme si c'était le bloc du langage lui-même. J'ai à voir comment je tire la peau, saloperie. Un de ces flippers, ça représentait un mandarin chinois, mais avec un flingue. Et ça disait « Docteur Min t'attend ».
Vous avez dit une fois que l'usage répété chez vous, dans vos textes, du langage religieux, le salut, la grâce, Dieu, avec les traditionnelles majuscules au début de ces mots, vous les utilisez pour faire rebondir la prose comme le bumper du flipper. Est-ce que Dieu, c'est un bon petit bumper ?
C'est un sacré bumper.
Oh, dites donc, oh !
Et puis pas seulement un artefact, comme un bumper, Dieu, c'est quelque chose dont la dénomination m'appelle depuis toujours. Je me sens de plus en plus, au fond, excusez-moi, catholique, quoi.
Mais je crois que vous priez rarement.
De plus en plus. Mais Dieu, ça peut être aussi bien le Big Bang. C'est ce qui habite le type quand il écrit, c'est-à-dire l'énergie universelle. Mais c'est aussi ce à quoi l'auteur s'adresse. Cette puissance innommée et qui fait que le langage, le monde tourne.
Vous tapez les vies minuscules sur la machine à écrire Olivetti que votre grand-père vous a offert pour votre anniversaire. Puis vous en envoyez 5 aux éditions Gallimard. Elles parviennent à Louis-René Desforêts, un écrivain qui fut proche de Raymond Queneau, de Georges Bataille ou de Michel Léris, membre du comité de lecture de la maison. Desforêts vous soutient, vous parle de votre talent considérable, mais Michel Tournier, l'auteur du Roi des Aulnes ou de Vendredi ou les Limbes du Pacifique, dit, lui, que ça ne vaut rien. Vous écrivez 3 autres vies minuscules, vous renvoyez le tout à Gallimard, le livre devient l'objet de querelles internes, certains trouvent impensable qu'on puisse, je cite, « employer une telle langue pour parler de gens misérables ».
Je crois qu'à l'époque, on voulait virer Desforêts du comité de lecture. j'ai renvoyé à Jean Grosjean. Et Grosjean me dit « Ah ouais, ouais, il faut absolument qu'on publie ça. »
Et vous n'avez pas envoyé ou fait suivre les textes à d'autres maisons ?
Non.
Le livre sort finalement en 1984. Vous voyez cet ouvrage comme votre première et dernière chance. Miracle. Vous faites la une du Monde des Livres, vous recevez le prix France Culture, mais il ne s'en vend la première année que 1918 exemplaires. Vous pleurez pendant 4 ans, c'est un coup d'épée dans l'eau. Vous avez parfois exprimé votre regret de ne pas être un écrivain populaire.
J'avais donné à beaucoup de voisins des cas et tout ça. C'est bien, tu sais, ton truc, mais il faut prendre tout le temps le dictionnaire. Il y a notamment une femme qui était la veuve d'un cheminot, qui l'a lu, vraiment, je n'étais pas du tout une femme cultivée ni une lectrice, qui l'a lu en reconnaissant les personnages que je faisais changer de siècle ou de peau, etc. Et elle a dit cette chose magnifique. J'ai un type là-dedans qui s'appelle Fiefié. Et cette femme était la sœur de Fiefié. Et elle a dit, ah, si Fiefié savait qu'il aurait fini dans un livre.
En 40 ans, ces vies minuscules se sont vendues, tout format confondu, à 185 000 exemplaires, selon les derniers chiffres qui m'ont été fournis par Gallimard. Est-ce que ça remonte le moral ?
C'est pas beaucoup, vous savez.
C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est à peu près la population de Saint-Étienne.
Ouais, mais un seul tirage de Duras ou de Houellebecq, ça fait...
Ça fait 1 million, ouais, ouais, c'est sûr.
Ouais, 10 fois plus.
Donc ça remonte pas le moral ?
Non.
Au fil des années 80 et 90, le succès d'estime de ce livre vous aliène. Vous avez mis, je cite, « le paquet auprès de celles et ceux qui ont voulu en faire un livre mythique, en abondant dans leur sens ». Mais avez-vous été écrasé précisément par le livre qui vous a sauvé, comme étouffé par ce nœud coulant à la gorge dont vous vous êtes fait, je cite encore, « des lauriers sur la tête » Avez-vous été comme prisonnier de votre propre voix ?
Oh là là, oui, infiniment, infiniment. Ce texte, c'est-à-dire qu'il y avait dans ce texte non seulement de la volonté d'impeccabilité littéraire, mais il y avait aussi mon être. C'était moi. Cet écrivain qui n'écrit pas, c'était moi.
Chaque matin, je posais la page sur mon bureau et attendais en vain que la remplît une faveur divine. J'entrais à l'autel de Dieu. Les instruments du rituel étaient en place, la machine à écrire à main gauche et les feuillets à main droite. L'hiver, abstrait par la fenêtre, nommait les choses plus sûrement que n'eût fait l'été profus. Des mésanges voltaient, qui n'attendaient que d'être dites. Des cieux variaient, dont la variation se pourrait réduire à 2 phrases. Allons, le monde ne serait pas hostile, resserti dans le vitrail d'un chapitre. Des livres m'entouraient, bienveillants et recueillis, qui allaient intercéder en ma faveur. La grâce ne saurait assurément résister à un si bon vouloir. Je la préparais par tant de macérations. N'étais-je pas pauvre, méprisable, détruisant ma santé en excitant de tous ordres ? Tant de prières ! Ne lisais-je pas tout ce qui peut se lire ? Tant de postures ! N'avais-je pas l'air d'un écrivain ? Son imperceptible uniforme ? Tant d'imitations picaresques de la vie des grands auteurs ? Qu'elle ne pourrait tarder à venir. La grâce ne vint pas.
Pierre Michon, Vie minuscule.
Donc il y avait quelque chose de destinal, ce qu'on appelle autofiction maintenant. C'est toujours destinal. Comme l'avait fait Proust. Et d'ailleurs, je n'ai jamais, avant le livre que je fais maintenant, où il y a plein de morceaux d'autofiction, je n'ai jamais remis mon socle destinal vraiment en place dans mes livres. Par exemple, La Grande Bonne, c'est complètement inventé.
Oui, mais
cet instituteur.
Dans Corps du Roi, le texte autour de Beaux endormis.
Oui, en effet. Celui-là c'est dans cette veine-là.
Oui.
Oui. Après les Vies minuscules, j'étais déçu. Parce que je trouvais que le service de presse de la maison n'avait pas assez poussé ce bouquin. Et j'ai rencontré le type des éditions Verdier.
Pourriez-vous nous parler, justement, de la relation de travail que vous avez eue avec Gérard Bobillier, dit Bob, votre éditeur chez Verdier, maison qu'il a créée en 1979 près des vignes des Corbières, en Occitanie. Parlez-nous de Bob, de ce feu d'artifice de sympathie et d'esprit rigoureux, ironique, qui vous a donné, à vous et à lui, de l'espérance.
Il avait du flair. Il voulait me rencontrer à tout prix après les Vies minuscules. Il m'appelait au téléphone, il était nul. Je n'ai pas donné suite. Un jour, je vais chez ma libraire à Orléans. Ah ben voilà! Elle me présente un mec qui était avec elle, qui avait l'air d'un boxeur, bien habillé, tweed. C'était Gérard Bobillier. Il y a eu une sorte d'amour éperdu. Il s'est installé dans ce groupe. Ça arrive. Une amitié interminable. Ce texte que vous aimez tant sur les lectures de Beaux endormis.
Corps du Roi.
Oui. À un moment, je fais une critique des bâtiments de la BN de...
La Bibliothèque Nationale de France.
Une critique, finalement, qui était une critique d'opinion, où je parlais de béton. Je l'envoie, je dis, tiens, on pourrait rajouter ça. Il me dit, oh, Pierrot, à ta place, je laisserai béton. C'est la seule réserve qu'il a faite sur mes textes. Jamais de correction. Mais Pontalis, chez Gallimard, c'était pareil. Et Crojean, non plus, aucune...
Vous auriez pu supporter les critiques, les conseils ?
La ponctuation des Vies minuscules est volontairement déréglée. Oh, j'étais très en colère parce que le correcteur, il avait réglé bien comme il fallait. Il a fallu que je refasse tout, que j'envoie.
Vies minuscules est dédiée à votre mère, André Gaillaudon. Celui qui sera par la suite votre éditeur chez Verdier vous disait... Tu écris comme ta mère parle.
Ma mère parlait extrêmement bien, extrêmement sincèrement, pas du tout vieille France. C'était une fille de paysan, mais elle parlait avec une justesse foudroyante. Quelques mots sur cette dédicace à ma mère. C'était son nom de jeune fille. Il y a quelque chose d'Oedipien. Je me suis dit depuis que la voix que j'ai perdue, qui parlait, dans les Vies minuscules, c'est ma mère. C'est ma mère qui a écrit les Vies minuscules. Je me souviens, elle me disait, tu me l'enverras ton livre quand il sera paru. Oui, oui, maman. Parce que si tu ne me l'envoies pas, j'achèterai. Elle était extrêmement heureuse, mais sans jamais rentrer dans le détail des textes.
Et quelques mois avant sa mort, à l'hôpital, vous voyez que le livre... Et dans sa valise que vous appelez la valise au bout du rouleau, et elle serre le livre contre elle. Vous avez écrit que ce geste était sa dernière délicatesse.
C'était sur les couvertures du brancard. Mes livres après l'ont déçu. Enfin, m'a pas dit, hein. Jamais. Mais je sais, par une copine, qu'elle a été très mortifiée par mon Rimbaud, parce qu'elle s'est identifiée à fond dans Vitali.
La mère de Rimbaud ?
Et elle a cru que je parlais d'elle. Fille de la campagne, femme mauvaise. Je l'ai su bien après.
Votre mère a été enterrée le 11 septembre 2001. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est une forme d'autocensure qui s'effondre ?
J'étais tout seul, au car, avec le deuil de ma mère et quelques bouteilles de blanc. Ma mère, je l'appelle Dédé. Je me dis, c'était pas pour des histoires de pétrole dans le Golfe que les tours de Manhattan se sont effondrées. C'était à cause de la mort de Dédé. Ça s'est passé, la chute des tours, 4 ou 5 heures après l'enterrement de ma mère. Vous savez, il y a un truc dans le christianisme qui s'appelle la communion des saints. quand un saint meurt quelque part, une catastrophe énorme éclate ailleurs.
Avez-vous écrit sur ces funérailles ?
Non, c'est trop périlleux. Je ne peux pas dire que cet événement qui a causé des millions,
des milliers
centaines
de morts,
milliers de morts, ouais, était là pour marquer le coup de la mort de ma mère. Je ne peux pas. Mm-hmm. C'est, ou alors, il faut que je l'arrange, etc. Mais c'est vrai que c'est une histoire que je dois absolument mettre en... Pourquoi je le ferai pas ? Attendez, j'ai noté un truc. Ouais, pourquoi pas le faire maintenant, dans cet ensemble-là. Mais comment lier ça au dieu grec ? Oh si, il y a Zeus et tout ça, dans les airs. Et...
Avant de choisir la direction d'un sujet, vous dites que vous devez en être ivre ou épris de ce sujet. Cela passe chez vous par la plus grande et la plus précise documentation possible, en consultant des experts et des dizaines d'ouvrages. Documentation avec laquelle vous noircissez des carnets. Dans vos carnets, qui sont d'ordinaire calepins à petits carreaux, comme celui que vous avez sur la cuisse, il y a des notes de repérage, des citations, des choses vues, des phrases, des chutes, des métaphores, de simples expressions comme « ligne à haute tension », le tout avec moult abréviations. C'est votre rapport quotidien à l'écrit. Vous utilisez le carnet comme un pense-bête, un déclencheur, que vous feuilletez en écrivant. À l'origine de tous vos livres, il y a environ 200 carnets.
Mais là, regardez, par exemple, en ce moment, parmi mes récits, il y en a un qui est sur Alexandre le Grand. Je connaissais bien la vie d'Alexandre. J'avais lu les écrits antiques sur lui, mais il a fallu que je relise. Mon texte, c'était un rêve d'Alexandre, et il rêve qu'Homère lui apparaît. Là-dessus, il y a une immensité de carnets.
Dans vos carnets, il y a parfois des coups de colère, des opinions. Mais ces opinions, dites-vous, il faut absolument les éviter en littérature. Les opinions ne doivent pas franchir le seuil de l'écrit, parce que ce sont les fleurs qui fanent le plus vite.
Quelque chose me gêne. Je juge que tout écrit, dès qu'il incline dans une opinion, sort de la littérature.
Pour aborder les grands sujets, vous conseillez de passer par le petit témoin. C'est un truc qu'on voit déjà chez Cervantes, chez Céline, la figure chrétienne du pauvre avec lequel le lecteur, la lectrice, peut compatir, comme dans les films de Charlie Chaplin avec le personnage de Charlot. On gagne d'emblée la sympathie du public. Vous l'avez expérimenté avec votre deuxième livre, Vie de Joseph Roulin, en 1988, à propos de Van Gogh, évoqué à travers la brève amitié qu'il avait, et réciproquement, pour un facteur marseillais. Que vous inspire la crise démocratique actuelle du fin fond de cette campagne, vous qui avez si souvent écrit aussi bien sur les humbles que sur la vanité des puissants?
Je pense très profondément que le politique est mort. Le politique n'existe plus. Ceux qu'on voit en ce moment se débattre, ces bonnets blancs et blancs bonnets, au fond, ils sont asservis au marché et au capital à tel point qu'ils n'en sont plus que les gérants. Ils gèrent différemment, comme ils peuvent, parfois méchamment, parfois bonnement, mais le politique n'existe plus. Il n'y a plus que de l'économique. Et il vient tomber comme un César, comme un prince du sang, comme un czar. On l'a crevé la semaine dernière à la glacière.
C'est qui ça ?
C'est Aristide Bruand. C'est pas un gros, c'est un petit Mac qui a mis de l'air dans l'estomac en y faisant une boutonnière. Si on faisait plutôt un tour de chant.
Ouais, petit concert.
C'est le vent du Nord qui a fait craquer la terre entre zébruches petits. C'est le vent du Nord qui a fait craquer la terre entre zébruges et l'Angleterre. Qu'est-ce que c'était beau tout ça.
Ouais.
À suivre sur arteradio.com.